Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
L'Afrique doit faire confiance à l'Afrique et le développement du continent passe par les Africains eux-mêmes avant tout. Voilà pourquoi je vous propose votre émission Coémergence, un rendez-vous qui vous aidera à mieux saisir les opportunités d'investissement et de business dans les économies africaines.
Mehdi 1, Coémergence, Oumar Baldé.
Bonjour et bienvenue dans votre émission Coémergence. Quel est le poids de l'industrie du sport en Afrique? Quelles sont les disciplines sportives qui créent le plus de richesses dans l'économie du sport sur le continent? Mais surtout, quelles sont les retombées attendues de l'organisation par le Maroc de la CAN 2025 et de la co-organisation du Mondial 2030? Autant de questions auxquelles vous aurez des réponses dans l'émission aujourd'hui. Et ce sera avec notre invité. Il s'agit de Will Biakop qui vient de publier un livre sur l'industrie du sport en Afrique. Nous l'entendrons dans quelques minutes. Mais avant cela, nous irons en Afrique du Sud. Comment va l'économie sud-africaine au lendemain de ces élections? Et surtout, comment enfin donner un déclic aux relations économiques avec le Maroc? François Conradi de l'Oxford Economics Africa nous donnera son point de vue. Ce sera dans la Destination Éco. Ce sont là les deux sujets de coémergence de cette semaine. Tout de suite, le développement.
Destination Éco.
Direction l'Afrique du Sud pour parler économie. Et pour cela, nous avons le plaisir de retrouver François Conradi, économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Avec lui, nous allons donc faire le point sur l'état de l'économie sud-africaine et les moyens de donner un déclic aux relations économiques avec le Maroc. Bonjour à vous, François Conradi.
Bonjour, Omar.
Alors, on y va directement à l'essentiel. Comment va l'économie sud-africaine au lendemain de ces élections?
En général, pas très bien. Donc, il y a la demande intérieure est assez faible. C'est une économie où la transmission de la politique monétaire fonctionne assez bien. Et le taux directeur de la Banque centrale est élevé à 8,25%. Cela pour contrer l'inflation qu'on a vue depuis début 2022. Et cela freine la demande intérieure et ça a des effets sur les investissements, etc. Il y a certainement aussi eu un effet d'incertitude de la part des investisseurs qui attendaient de voir le résultat des élections. Donc pour ces raisons, et surtout la demande intérieure, il y a une croissance faible. Donc notre prévision à nous est d'une croissance du PIB de 0,7% en 2024. Et la demande intérieure est la raison pour cela. Plus positivement, les délestages sont beaucoup moins que dans les années précédentes. Donc l'Office de l'électricité, ESCOM, a pu terminer certains projets de maintenance qui freinaient la provision d'électricité. Et maintenant que cela est terminé, on a moins de délestages qu'avant.
Donc moins de délestages qu'avant, mais des perspectives, disons une situation économique qui n'est pas au meilleur de sa forme. Alors cela dit, et on le dit souvent avec le Maroc, comment enfin donner un déclic aux relations économiques, sachant que on a des investissements quand même assez colossaux. On le rappelle souvent, Saham qui est entré dans le giron de Sanlam, entre autres. Il y a Anfa Place aussi ici à Casablanca. Alors comment donner enfin un déclic à ces relations économiques avec le Maroc, François Conradi?
Cela tient à des décisions politiques. Cela n'a pas empêché certaines transactions dont vous venez de parler. Donc il est possible qu'ici et là, de manière tentative, presque expérimentale, les autorités peuvent se mettre d'accord sur des grands investissements, mais pour des relations vraiment décomplexées, il faudrait un changement de la part de la politique sud-africaine. Voilà, c'est surtout ça.
Mais sentez-vous une envie des hommes d'affaires de commercer, une envie d'échanger, une envie de co-investir?
Oui. Les contacts entre les professionnels sont très bons, se passent très bien. Il y a des projets qui peuvent se faire et qui se font aussi. Mais les grands projets disons, où il y a un volet diplomatique et politique dedans, ça risque de demeurer compliqué.
En tout cas, c'est à suivre. Merci à vous, François Conradi. Je rappelle que vous êtes économiste senior à l'Oxford Economics Africa. Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, Omar.
Coémergence, l'invité.
Et notre invité s'appelle Will Biakop. Il est expert en économie du sport. Je vous le disais en titre, nous allons aussi parler de sport dans cette émission Coémergence. Will Biakop vient de publier un livre sur l'industrie du sport en Afrique. Et je sais qu'on avait besoin de parler de cette industrie, mais surtout de mesurer son poids sur le continent et son économie. Bonjour à vous, Will Biakop, et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, je suis ravi d'être là avec vous aujourd'hui, bonjour.
Alors, Will Biakop, nous aimerions davantage en connaître sur vous et sur votre livre que vous venez de publier sur l'industrie du sport en Afrique.
Écoutez, ben, on vient effectivement de publier la deuxième version de notre livre qui est en anglais cette fois-ci, qui s'appelle « Africa Sports Industry Understanding the Game ». Effectivement, l'idée c'est de comprendre cette industrie qui est le sport. Le premier livre en français s'appelait « L'économie du sport en Afrique ». État des lieux, donc l'idée c'était de présenter les challenges et les opportunités à l'intérieur de cette économie. Donc là on est à la deuxième version et moi en tant que président de l'ASCI, donc l'African Sports and Creative Institute, notre institut, on a pour objet de contribuer au développement de l'écosystème du sport et des industries culturelles et créatives en Afrique à travers la rédaction de rapports, de livres, mais également de la formation qui est quelque chose d'essentiel pour le continent, donc former les leaders du monde du sport de demain.
Alors, en tout cas, c'est le décor est planté. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Alors, Will Biakop, que vaut le sport en Afrique, économiquement parlant?
Alors, le sport en Afrique, économiquement parlant, ne vaut pas le talent extraordinaire que l'Afrique a produit depuis des décennies pour faire rayonner l'économie du sport mondial, qui est aujourd'hui de 2 à 3 % du PIB mondial. Donc, on pense bien entendu à Hicham El Guerrouj qui vient du Maroc, mais bien entendu Didier Drogba au football, Samuel Eto'o, Mo Salah, Sadio Mané, etc., etc. Donc, des grands talents qui ont contribué à faire que des grands clubs mondiaux, hein, Chelsea, je pense aussi à la NBA avec Joel Embiid, etc., etc. Toutes ces grandes ligues ont généré d'énormes revenus, des milliards de dollars de revenus, mais malheureusement en Afrique aujourd'hui, c'est à peu près 0,5% du PIB africain, donc c'est absolument minuscule et pas à la hauteur de l'incroyable talent africain au niveau sportif, mais également de l'énorme marché que représente l'Afrique, un marché de 1,4 milliard de personnes.
C'est important à noter, donc retenez bien ce chiffre, hein, le sport en Afrique équivaut pour le moment à 0,5% du PIB du continent, ce qui en dit long sur le potentiel de développement de cette industrie. Justement, comment développer le sport africain, comment le rendre plus rentable, Will Biakop?
Écoutez, il y a plusieurs éléments à considérer. Nous, au sein de l'Institut et en partenariat avec Mazars, nous avons développé un survey, donc une enquête d'opinion auprès de 2000 acteurs de l'écosystème du sport africain. On leur a donné la parole en leur demandant quel est l'état de lieu, quels sont les challenges, mais également quelles sont les opportunités que vous voyez au sein de l'écosystème. Alors, ce qu'on apprend, c'est que, grand 1, on a absolument besoin de davantage de data. Donc la donnée est absolument manquante. On a besoin de davantage de data pour comprendre notre environnement, c'est-à-dire qui consomme le sport, quand est-ce qu'il le consomme, comment il le consomme, comment il le pratique également ce sport-là, à quelle hauteur, sur quel segment. Donc la première chose, c'est absolument avoir besoin de davantage de data, de données. La deuxième chose, vous savez, l'Afrique, l'atout numéro un de l'Afrique, c'est son capital humain. Cependant, aujourd'hui, le capital humain n'est pas formé. Donc, on a absolument besoin de développer davantage de compétences, de faire en sorte qu'on ait des formations meilleures en sports management pour faire en sorte que demain, nous ayons des gens qui soient compétents à la direction du sport. La troisième chose dont on a besoin, c'est de faire en sorte que les gens comprennent que le sport est un business. Donc faire en sorte qu'on comprenne que le sport est un produit marketable et un produit rentable, et donc il faut absolument monétiser le sport et casser le prisme qui est le suivant, à savoir l'économie du sport est absolument basée sur la compétition professionnelle. Ça, c'est un prisme qu'il faut absolument oublier. La compétition professionnelle est absolument importante. Les méga-events, ce qu'on appelle les Jay-Z, hein, les grands événements sportifs internationaux comme la Cannes, par exemple, sont absolument nécessaires et c'est fabuleux. Maintenant, l'économie du sport en Afrique est basée sur la consommation et la pratique quotidienne du sport par les ménages. Donc je le redis une deuxième fois parce que c'est extrêmement important. L'économie du sport est absolument basée sur la consommation et la pratique du sport au quotidien par les ménages. Alors, c'est là le fondamental de l'économie.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, la pratique du sport au quotidien par les ménages et la consommation? Explicité, Willem Biakop.
Ah, bien sûr, avec grand plaisir. Bah, écoutez, quand vous savez qu'on a des sportifs amateurs qui vont faire leur sport au quotidien, donc pour faire votre sport, vous allez avoir besoin de chaussures. Vous allez avoir besoin de chaussettes, vous allez avoir de shorts, de t-shirts. Donc tout ça, déjà, c'est une industrie qu'on appelle le merchandising. Et si on étale un peu plus loin, vous allez avoir peut-être besoin d'équipements, de ballons, de plots, des cages de football. Donc tout ça, c'est une industrie qui peut générer de l'argent et auquel il y a beaucoup de jobs. Il va y avoir besoin d'un designer, de quelqu'un au niveau marketing, de quelqu'un au niveau du manufacturing pour produire ces produits-là. Donc ça, c'est la pratique du sport. Et là, je n'ai même pas mentionné toute la partie sportstech, donc avec notamment les montres qui sont rattachées à votre poignet et qui vont mesurer les battements de votre corps, votre pouls, et comprendre combien de calories vous avez brûlé quand vous avez pratiqué votre sport. Mmh. Et bien entendu, cette pratique sportive est au sein d'un club, et ce club vous vend un membership, donc vous êtes membre, une licence pour pouvoir faire votre sport. Et ça également, ce sont des transactions économiques qui ont une valeur. Mmh. Donc ça, c'est la pratique du sport. Au niveau de la consommation du sport, eh ben écoutez, c'est par exemple tous les fans qui vont aller voir un Raja jouer au football, par exemple. Donc ça, c'est la consommation du sport. Donc il va y avoir des tickets, il faut acheter des tickets pour rentrer au match. Quand vous êtes au match, vous allez peut-être avoir soif et vous allez avoir envie de manger. Donc ça, c'est à nouveau une transaction économique qui vaut de l'argent. Mmh. La consommation du sport, c'est également le gaming. Vous savez, le gaming au niveau mondial, c'est un peu moins de 200 milliards de revenus, et à l'intérieur du gaming, il y a bien sûr le e-sport, qui est la compétition, si vous voulez. Donc le gaming, c'est la pratique de jouer aux jeux électroniques, et le e-sport, c'est la compétition qui s'avère être professionnelle. Donc ça, c'est également de la consommation du sport. C'est également acheter les jerseys ou les maillots de vos équipes préférées, qu'elles soient les équipes nationales ou les équipes de club. Donc voilà, tout cet ensemble d'activités, se constitue un ensemble de transactions économiques qui valent de l'argent. Et je n'ai pas parlé, bien entendu, du tourisme sportif. Nous sommes au Maroc, un grand pays de tourisme. Le Maroc accueille sur les prochaines années une série extraordinaire d'événements sportifs, que ce soit la Cannes en 2025 et bien entendu en 2030 la Coupe du Monde. Et bien, tout ça implique un appel d'air extraordinaire en termes de besoins de staffing, donc on a besoin de gens qualifiés pour répondre à ces événements-là, et ça appelle également un énorme besoin d'hospitalité, parce que ça va être des millions et des millions de gens qui vont venir visiter le Maroc pour voir le football, mais également pour comprendre et être plongé dans le fabuleux hospitalité marocaine.
En tout cas, tout le monde sera le bienvenu. Alors, quand vous parlez de ces pays, justement, peut-être ce ne sont pas des informations que l'on a toujours, Willem Biakop. Quels sont les pôles de l'économie du sport en Afrique? Quand je dis les pôles, quels sont les pays qui se distinguent, qui parviennent à faire émerger une industrie du sport qui est sur les rails et qui, peut-être dans les années à venir, pourrait être aussi prometteuse que ce que l'on voit ailleurs?
Bon, écoutez, c'est une excellente question. Il y a quelques pays qui se démarquent effectivement. On va commencer par l'Afrique du Sud, qui est une des économies les plus avancées. Elles sont peut-être la deuxième économie derrière le Nigeria aujourd'hui sur le continent. Donc effectivement, eux, ils ont une économie très avancée au niveau du sport, avec des piliers comme le rugby, bien entendu, le football et le cricket notamment. Donc là, ils ont développé une industrie qui couvre l'ensemble de la chaîne de valeur avec des acteurs qui sont assez performants. Donc on va mettre la lumière sur l'Afrique du Sud. L'autre pays qui est émergent et qui a utilisé le sport à double escient, à savoir un vecteur de socle social, donc la cohésion sociale comme on l'appelle, mais également vecteur de développement économique et vecteur de diplomatie sportive. Et là, je pense au Rwanda. Effectivement, le Rwanda, vous savez, à la sortie du génocide en 1994, le génocide contre les Tutsis, ils ont utilisé le sport pour rassembler les gens. Ils ont lancé également le Car Free Day, donc une journée complète où il n'y a pas de voiture pour encourager les gens à faire du sport. Ils ont lancé les campagnes Visite Rwanda. Vous avez vu Visite Rwanda sur les maillots d'Arsenal, Paris Saint-Germain et puis récemment le Bayern en Allemagne. Donc, pas mal d'investissements. Ils ont investi également au niveau infrastructure, 104 millions de dollars pour construire la Kigali Arena, cette magnifique arène de 10 000 places qui pourra accueillir des méga-events, que ce soit la NBA ou autre. Donc, et c'est également pour eux un outil d'influence, puisqu'à l'international, on voit de plus en plus le Rwanda apparaître pour encourager le tourisme également. Donc ça, c'est le tourisme sportif. Bien entendu, je suis obligé de citer récemment nos amis de la Côte d'Ivoire hein, qui ont investi 1,2 milliard d'euros environ pour accueillir la CAN et utiliser la CAN comme catalyste d'infrastructures. Donc il y a notamment la côtière hein, qui relie Abidjan avec le reste de la Côte d'Ivoire et d'autres infrastructures au niveau sportif. Et puis bien entendu le dernier qui est certainement pour moi le leader sur le continent, c'est le Maroc. Le Maroc avec une belle performance sportive lors de la Coupe du Monde qui finalement et la suite logique d'investissements qui ont eu lieu depuis des années. On a investi sur le talent sportif marocain, là c'est dans le football, mais il y a également d'autres sports où le Maroc rayonne. Je pense à la boxe notamment avec Khadija Mardi, olympienne, hein, qui va certainement gagner quelque chose à Paris. Là. On doit également noter 500 millions d'investissements du Maroc sur le stade qui sera à Mohamedia, le plus grand stade d'Afrique. Hein. On annonce un stade avec 100 000 places, un stade extraordinaire qui sera là pour accueillir la Coupe du Monde. Et à nouveau, je note le côté, bien entendu, investissement infrastructure, mais on va au-delà de ça. On va au niveau du développement du talent, bien sûr. On va au niveau du tourisme sportif. Vous savez, Oumar, que le touriste sportif dépense en moyenne 20% de plus que le touriste traditionnel.
Intéressant.
Donc ça, c'est quelque chose de très, très, très important pour le pays. Et puis, bien sûr, je suis obligé de parler de la partie formation des talents.
Justement, donc, je pense que ça, effectivement, ça, c'est un point important que j'allais justement vous poser, Eric Mbiako. Parlez-nous de ce que rapporte la formation des talents.
Non, la formation des talents, elle est essentielle. Elle est essentielle sur deux abords. Bien entendu, le talent sportif. Bon, vous savez, l'Afrique regorge de talents dans tous les sports et depuis des décennies. Malgré le fait qu'on ait encore des progrès à faire sur cette formation d'athlètes, on sort depuis des décennies des athlètes dans tous les sports, que ce soit le football, le basket, MMA, etc. etc. Donc c'est un élément essentiel, effectivement, d'avoir davantage d'athlètes qui brillent à haut niveau et donc d'avoir des filières pour identifier les talents et les développer. La deuxième chose pour laquelle, pour moi, c'est d'autant plus important, c'est vraiment de développer les talents dans le sens business du terme. On a besoin d'avoir des marketeurs du sport. On a besoin d'avoir des spécialistes de l'événementiel du sport. On a besoin d'avoir des gens du legal, donc les juridiques, etc., etc. Vous savez que sur la filière du sport, sur la chaîne de valeur du sport, il y a à peu près une centaine de jobs disponibles. Alors, on doit noter l'excellente initiative de l'Université Mohamed VI Polytechnique qui est en train de préparer un ensemble de cursus de formation au métier du sport, dans le sens sports management. On parle moins de coaching, mais on parle plus de l'aspect business et management du sport. Et là, effectivement, c'est quelque chose d'essentiel. Et bien entendu, il faut encourager l'initiative de l'UM6P, puisque, à nouveau, la formation qu'ils vont proposer va répondre à l'appel d'air nécessaire aux grands événements qui arrivent au Maroc dans les prochaines années.
En tout cas, c'est un plaisir de vous écouter, Eric Will Mbiakop. Alors, quand même, une dernière question, si vous permettez. Quelles sont les disciplines qui rapportent le plus à l'industrie du sport en Afrique?
Eh bien, écoutez, au niveau de l'athlète, hein, les sports au niveau mondial qui rapportent le plus, c'est bien entendu le football. Bon, ça, c'est le sport numéro 1 au monde. Vous avez également le basket avec la NBA, où vous voyez aujourd'hui des gens qui peuvent gagner entre 30 et jusqu'à peut-être 60 millions de dollars pour jouer au basket pendant 7 mois. Donc ça, c'est des sports importants. Bien entendu, vous avez le golf, la F1, etc. Bon, voilà. Nous, en tant qu'Africains, on est très forts sur la partie football et basketball. On voit des talents émerger sur les sports comme le golf et la F1. Bon voilà, donc ça c'est au niveau athlète. Maintenant, pour répondre à la question au niveau de l'économie, bah écoutez, il y a quelques grands secteurs d'activité sur lesquels moi j'encouragerais les investisseurs qui nous écoutent à regarder. Et je vous en donnerai peut-être trois aujourd'hui. La première chose sur laquelle je pense qu'il faut absolument investir, c'est la sports tech. La sports tech, c'est un marché qui vaut aujourd'hui au niveau mondial 31 milliards de dollars, un taux de croissance projeté de 19,7%. La sports tech, c'est extraordinaire, il faut absolument investir dedans. La deuxième chose sur laquelle j'encouragerais les gens à investir, c'est ce qu'on appelle health and wellness, donc la santé, le bien-être, ce qu'on appelle le healthy living en anglais. Donc ils vont consommer du sport, ils vont aller pratiquer le sport à la salle, mais ils vont avoir besoin de spa également, de massage, etc., etc. Donc l'industrie du health and wellness, c'est à peu près 5 trillions de dollars aujourd'hui sur le monde, et l'Afrique, bien entendu, va jouer son rôle. Et la troisième chose sur laquelle moi je suggère d'investir, c'est le tourisme sportif. Le tourisme sportif, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que le touriste sportif dépense en moyenne 20% de plus que le touriste moyen. Et l'autre chose, c'est que le tourisme sportif permet aux nations de mettre en avant leur héritage, leur histoire, leurs valeurs, et faire en sorte que le touriste plonge dans l'hospitalité, en l'occurrence ici, l'hospitalité marocaine. Voilà les trois grands espaces d'investissement.
Que ce fut un plaisir de vous écouter, Will Biakop. Je rappelle que vous êtes donc expert en économie du sport. En tout cas, vous nous avez donné l'envie non seulement de faire du sport, mais aussi d'investir le domaine du sport en tant qu'investisseur. Merci d'avoir accepté notre invitation dans Coémergence, Will Biakop. Et certainement, avec tous les rendez-vous sportifs qui se profilent à l'horizon, on aura le plaisir de vous réécouter à nouveau dans Coémergence.
Merci beaucoup. Merci d'avoir accueilli.
Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je rappelle que vous pouvez retrouver Coémergence sur notre plateforme Medium Podcast ainsi que sur les plateformes de podcast habituelles. Bonne suite de programme sur Medium et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Inch'Allah.